tuer pour voir ce que ça fait. Voilà la justification avancée par Mathieu Danel, condamné cette semaine à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 19 juin 2018, il n'a que 22 ans quand il prend sur la route de Montélimar une autostoppeuse. Après une très bonne soirée qu'ils vont passer ensemble, il va la tuer. La tuer de 17 coups de couteau. Pourquoi ? Parce que depuis tout petit, il voulait essayer de savoir ce que procurait la sensation du meurtre. Marine Scherrer.
C'est sur ce chemin que Mathieu Danel a mené sa funeste expérimentation le soir du 19 juin 2018. Ce jour-là, à Montélimar, le jeune homme de 23 ans prend en autostop Claire Régnier, une guide interprète de 39 ans. Arrivé à Sommières, ils dînent ensemble et marchent ensuite 2 heures dans une commune voisine.
Il s'est retrouvé dans un lieu isolé, mais ce lieu, c'est pas lui qui l'a choisi. Il n'avait pas projeté d'aller à Sommières ce jour-là. C'est une ville qu'il ne connaît pas.
Après cette promenade, Claire Régnier demande à Mathieu Danel de la laisser seule. Ce dernier la poignarde alors 17 fois avec une dague. Le dernier coup porté au sternum atteint le cœur et tue la jeune femme.
Quand on demande donc à M. Danel si la victime a crié, il répond non. Alors qu'on a vu avec le médecin légiste que ça s'est fait dans un climat et dans une violence inouïe. Donc forcément, il y a eu des cris.
Mathieu Danel laisse le corps sur place. 48 heures plus tard, il se présente au commissariat de Montélimar et avoue l'homicide de Claire Régnier. Mais pourquoi ce geste ? Pour, dit-il, savoir ce que cela faisait de tuer.
Il explique qu'il avait une envie de tuer et qu'il avait cette envie au fond de lui-même depuis quelque temps et qu'il fallait qu'il passe à l'acte.
Aux enquêteurs, il explique aussi avoir été déçu de la sensation d'ôter la vie et n'exprime aucun regret.
Et pour tenter de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de Mathieu Danel et pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire plus généralement, nos invités, Lysiane Larbani, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Marianne, vous connaissez très bien cette affaire. À vos côtés, Jean-Marc Benkemoud, bonjour, merci d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes expert psychiatre auprès des tribunaux et médecin légiste. D'abord, Lysiane, j'ai peut-être envie qu'on remette un tout petit peu de contexte dans tout cela. C'est pas... une brouille, c'est pas une femme qu'on rencontre avec qui ça se passe mal. C'est pas une femme qu'on viole ou on veut effacer des traces. Il passe une bonne soirée.
Passe une bonne soirée qui est un peu dans le prolongement de la bonne journée. Mathieu Danel, il la prend en autostop. Il se rend à Sommières, qui c'est quand même à 150 km de Montélimar. Donc il fait la route avec elle, c'est 2 heures de route. Ils vont ensuite visiter Sommières, ils dînent ensemble. Donc il y a vraiment un bon contact qui se passe entre eux. Et puis ensuite, les faits... que l'on connaît au moment où leurs chemins se séparent. C'est vrai que c'est assez étonnant. On n'est pas dans un schéma classique du meurtre. Là, on est vraiment face à quelque chose d'inhabituel.
Dans quel cadre va se passer le moment de la bascule, le moment où il va la tuer ?
Ben, en fait, Mathieu Danel, il rentre dans sa voiture. Ce qu'il va expliquer aux enquêteurs, c'est qu'il a une dague qu'il a dans sa voiture au cas où l'envie de tuer se présente à un moment ou à un autre. Et là, il se trouve dans une situation où il n'y a personne, il fait nuit, il est tout seul avec elle. Il se dit, ça y est, c'est le moment, ça y est, je vais pouvoir tuer, l'occasion de tuer se présente enfin.
Il ne raconte pas d'agressivité avant, il monte dans la voiture, il prend cette dague qu'il n'avait pas pour se défendre dans sa voiture, qu'il avait vraiment l'intention de tuer, et il la frappe comme ça, c'est ça.
Ben, il semblerait, après c'est ce qu'il explique aux enquêteurs, nous on n'était pas là, mais apparemment, vraiment, il y a ce moment où il va rentrer à la voiture... Il lui aurait proposé d'avoir une relation sexuelle, ce qu'elle aurait refusé. C'est vrai qu'on l'a pas trop évoqué, cet aspect-là. Et là, il prend la dague, il revient vers elle, et là, il la tue de 17 coups de couteau. Ouais.
Et vous lâchez cette phrase, effectivement, qui est celle qu'il a avancée. C'était l'occasion de tuer, parce que depuis tout petit, je voulais savoir ce que procurait la sensation de tuer. On est un peu sans voix, nous, lambda. Comment vous spécialiste de nos réflexions, spécialiste de nos cerveaux, vous comprenez cela ?
Écoutez, il y a des gens qui présentent des troubles de personnalité. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, d'après ce que j'ai lu, il y a probablement une pathologie de la personnalité avec un sujet qui est très peu empathique, en fait, hein, qui respecte peu les normes sociales, un peu solitaire, un peu mégalomaniaque, enfin, qui est aussi dans une dimension, d'après ce que j'ai lu, et puis... de la façon dont le procès a l'air de s'être déroulé, un peu manipulatrice, égocentrique, voilà. Donc quelqu'un qui va ne répondre à ses pulsions que par la réponse de la pulsion. Donc il est baigné, semble-t-il, dans des jeux vidéo violents, mais ce n'est pas pour autant qu'on le devient, mais il y a quand même une violence qui est exprimée de façon fantasmée et qui va se développer progressivement. Mais je crois que ce que je n'ai pas lu et ce qui n'a pas été évoqué, c'est tout ce côté sexuel. Et moi, ça m'a beaucoup étonné. En fait, ils se rencontrent, ils la trouvent particulière, il se passe des choses entre eux de plutôt sympa. D'après ce que j'ai compris, elle se déshabille. Enfin, en tous les cas, elle se change devant lui à la lueur de sa lampe torche. Enfin bon, il y a des choses qui ne sont pas banales. Et puis, il lui propose d'aller à l'hôtel. On ne va pas à l'hôtel pour jouer au billard. Voilà. Donc vraisemblablement, dans sa tête à lui, il y a une dimension de désir sexuel, en tout cas. Et elle refuse. Voilà. Et donc là, on est plutôt dans une dynamique de frustration chez un individu qui ne peut pas contrôler, ça. Et on est dans une dynamique aussi d'overkilling, ce que les anglo-saxons appellent overkilling, dont on n'a pas parlé. C'est-à-dire que c'est des individus qui vont plus que tuer. Il y a 15 coups de couteau. Ouais. Alors l'overkilling, 17, c'est au-dessus de 17. Ouais. L'overkilling, on dit que c'est au-dessus de 15 coups de couteau parce qu'il faut compter les... Effectivement, cette femme s'est défendue, quoi. Il faut compter le fait qu'elle se défende.
Mais ce qui est paradoxal, pardon, dans tout ça, ouais, c'est que... Il dit, il explique ça à un moment aux enquêteurs, il dit, c'est un peu comme un restaurant. On va tester des plats, ben là, il fallait que je teste pour savoir ce que ça faisait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de la gravité d'ôter la vie à quelqu'un.
Non, quand il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'empathie. Mais moi, je voudrais revenir sur cette dimension, parce que c'est un homme et une femme, et on n'a pas parlé de cette dimension de tuer une femme qui se refuse à moi, mm-hmm. Dans le côté aussi de la surtuer, parce que je veux l'anéantir, la détruire, parce qu'elle s'est refusée à moi. Et on est clairement dans une dimension, c'est ce qu'on retrouve chez les féminicides, la majorité des overkillings, c'est dans les féminicides. Et il ne faut pas, cette dimension, je trouve qu'elle n'a pas été, et pourtant il dit, ça ne m'a pas fait plaisir.
Mais alors, c'est, docteur, c'est, bien. C'est ça, je me permets juste, parce qu'il faut redonner ça aussi, Lysiane, que nous expliquer. Effectivement, on lui dit, qu'est-ce que vous avez ressenti, comment ça s'est passé, puisque vous voulez tester cette sensation, qu'est-ce qu'il répond ?
Qu'il trouve ça très neutre.
C'est le mot employé.
Oui, mais très neutre, ouais, c'est glaçant. Enfin, c'est... Quand on vous dit « je trouvais ça très neutre de tuer », il y a une espèce de... il y a vraiment un détachement, mais c'est ce que disait le docteur. C'est vraiment lié à ce manque d'empathie où finalement, il est dans un flottement, ça lui passe un peu au-dessus ce qu'il a fait. Quoi. Peut-être, ce qu'il semble expliquer, c'est qu'il est vraiment en recherche de sensations et que la sensation extrême, donc de ôter la vie à quelqu'un, même ça, en fait, ça ne lui procure rien.
Mais on dirait presque qu'il est déçu par ce qu'il a ressenti, hein, c'est ça.
D'ailleurs, pardon Dominique, ouais, je donne juste la parole, juste pour compléter, parce que ce que vous dites, c'est intéressant. Il va se rendre aux policiers pour ça, d'ailleurs. Il va se rendre aux policiers parce qu'il dit, finalement, ça ne m'a pas procuré particulièrement d'émotion.
Ouais. Oui, ce qu'il explique, lui, c'est qu'en fait, s'il avait aimé la sensation, il aurait continué. Vraiment, et puis en plus, quand il s'exprime face aux enquêteurs de police ou à la juge d'instruction, il a ce ton très monocorde, très froid, il est presque lassé, en fait.
Docteur, je vais vous demander deux choses. Est-ce que vous avez déjà vu une histoire comme celle-là, quelqu'un qui gratuitement tue? Et puis ensuite, est-ce que s'il n'y avait pas eu ce moment où elle se refuse à lui, c'est son récit, on n'a que son récit. S'il n'y a pas ce moment où elle se refuse à lui, est-ce qu'il est capable de prendre cette dague et de la poignarder comme ça?
C'est difficile à dire. Alors oui, des violences de ce type, on en voit malheureusement. C'est difficile à dire. En tous les cas, il est à la recherche. C'est des individus qui sont à la recherche de sensations extrêmes même, hein, mais à travers la possession, à travers la domination, à travers et le meurtre et la domination ultime, c'est-à-dire je fais de toi ce que je veux. Il y a un tel overkilling que d'après ce que j'ai lu, il dira je sais même pas ce qu'elle m'a dit, quoi. En fait, on imagine bien que pendant la scène, elle dit des choses, il se passe des choses, elle se défend. Lui, il n'est plus là-dedans.
Il est ailleurs.
Pourquoi il s'est rendu criminel. Peut-être qu'il y a cette démarche. Moi, j'ai pas tout lu, donc c'est compliqué. Mais il y a peut-être cette démarche, effectivement, de dire j'ai pas ressenti du plaisir. Mais enfin, il y a une démarche peut-être de culpabilité, mais ça m'étonnerait parce que vraisemblablement il n'en est pas atteint. Il peut y avoir aussi une démarche de démonstration parce qu'il s'est pas rendu tout de suite. Vous ne l'avez pas trouvé, voilà ce que j'ai fait. Et ça, c'est assez typique des tueurs en série qui vont essayer de mettre en avant ce que... Et donc, peut-être qu'on a arrêté une série.
Je reprends la question de Dominique qui vous demandait, est-ce que vous avez déjà croisé des gens qui avancent cette même justification ? C'est-à-dire, juge, j'avais envie de tester. Parce que c'est ça qui nous laisse quand même assez stupéfaits dans cette affaire.
Alors, ils ne le disent pas comme ça, mais oui, je pense que... On est dans une société où malheureusement les choses sont compliquées pour les adolescents, pour les enfants, les adolescents et les adultes jeunes, à la recherche de sensations tout à fait particulières, et certains qui sont fragiles à travers des troubles de la personnalité. Je vous rappelle quand même qu'on a parlé de pédopornographie, c'est pas rien. Hein, ça veut dire que qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce garçon qui s'est développé de travers, probablement, parce que la pédopornographie, regarder de la pornographie quand on est jeune, forcément ça aboutit à des choses compliquées dans la tête, et donc une dynamique de violence qui se met en place et un passage à l'acte à un moment ou à un autre qui est, à mon avis, quasi inéluctable. Alors c'est vrai qu'on ne retrouve pas de maltraitance, hein, vous l'avez dit, mais on retrouve quand même un sujet qui est en échec scolaire, qui est en échec professionnel,
c'est
qui est en échec amoureux. Et donc on voit bien se mettre en place le sentiment d'injustice, la perte de l'estime de soi, etc. Et on retrouve quand même ces dynamiques, malheureusement, quoi.
Et pour conclure, justement, qu'est-ce qu'on sait de sa vie, cet homme ?
Ben, en fait, contrairement à un schéma classique du meurtrier, quand dans les enquêtes de personnalité, dans les expertises diverses qui ont été faites, Mathieu Danel, c'est un peu un jeune homme normal, en fait. Il n'a pas de traumatisme sexuel, de passé, de violence. Il est entouré de parents présents. Enfin, d'habitude, on a plutôt l'habitude de parents défaillants, passifs, maltraitances diverses, tout ça. Rien de tout ça. Et en fait, il va avoir une scolarité tout à fait normale. Et ensuite, après, lorsqu'il part faire ses études dans le Nord, c'est là, en effet, qu'il y a un peu la dégringolade, puisqu'il échoue totalement dans ses études. Dans le même temps, il se sépare de sa conjointe avec une relation qui est quand même très compliquée. Il est condamné pour violence conjugale à son endroit. Donc vraiment, il y a un passif de colère et quand même un terrain déjà établi. Et ensuite, c'est là qu'en fait, il rentre vivre chez ses parents. Mais après, c'est classique. Vous avez 22 ans, vous échouez dans vos études. Il lit des mangas assez violents. Et en fait, il fait de l'intérim, mais un peu à l'instar d'un Jean-Claude Rouman. En fait, il est dans sa voiture, il fait croire à ses parents qu'il travaille, il ne travaille pas vraiment, on ne sait pas trop ce qu'il fait, il est dans le mensonge. Et ce qu'expliquait le docteur, c'est qu'ensuite, il se nourrit de contenu très violent, pédopornographie, manga archi-violent et aussi vidéo d'exécution de Daesh.
C'est ce cercle infernal qui s'enclenche. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Affaires Suivantes. Passionnant de décrypter cette affaire avec vous aujourd'hui. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans un instant pour parler de Cédric Jubilard. Est-il en train de se jouer des enquêteurs ? Depuis une semaine, des moyens très importants ont été déployés pour fouiller les alentours de la ferme où il a indiqué à un codétenu avoir enterré son épouse. Sauf qu'au même moment, il écrit à sa nouvelle copine pour dire que c'était, je cite, « des conneries, que tout cela est faux ». Alors, coup de bluff de Jubilard qui se sent menacé ou opération de manipulation des enquêteurs ? On vous dit tout cela et on essaye d'y répondre dans un instant. La suite d'Affaires Suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. C'est une ferme située à 5-10 minutes maximum du domicile des Jubilards. La ferme de Drignac est depuis le début de la semaine au cœur de toutes les attentions. Une exploitation agricole de 200 mètres carrés qui a brûlé quelques jours après la disparition de Delphine Jubilard. C'est sur cette zone que depuis lundi, les gendarmes ont lancé de vastes opérations de recherche. Une tentative de plus pour tenter de retrouver le corps de Delphine. Décryptage, explication avec Dominique, avec tous nos invités. Ce sera dans un instant sur le plateau d'Affaires Suivantes. Mais d'abord, retour sur le mystère de ce corps disparu avec Marine Scherrer.
Au bout de ce chemin, la zone où de nouvelles recherches ont débuté ce lundi pour retrouver le corps de Delphine Jubilard. Depuis sa disparition en décembre 2020, pas de traces, peu d'indices, mais les fouilles ne se sont jamais arrêtées. En début de semaine, un vaste dispositif a été déployé autour de cette ferme, située à moins de 2 km de la maison des Jubilards.
Il y a bien évidemment les gendarmes de la gendarmerie départementale du Tarn, il y a des gendarmes de l'IRCGN, de l'Institut de recherche de la gendarmerie nationale.
Au printemps dernier, cette ferme avait déjà été fouillée par les enquêteurs, sans succès. Alors pourquoi rechercher au même endroit ? Car ce lieu a été cité plusieurs fois lors des investigations. par Séverine Déjà, la nouvelle compagne de Cédric Jubilard, mais aussi par un ancien codétenu à qui le mari de Delphine aurait confié où il avait caché le corps. Alors le plaquiste a-t-il dit la vérité ? Dans deux lettres écrites à Séverine et que le journal La Dépêche a dévoilées cette semaine, il revient sur ses propos.
J'ai raconté n'importe quoi à n'importe qui.
Mais les enquêteurs prennent au sérieux chaque piste pour retrouver le corps de Delphine Jubilard. En un peu plus d'un an, plusieurs battues ont été organisées. Des lacs sondés, des lieux abandonnés inspectés, comme cet ancien lavoir à charbon. Les nouvelles fouilles engagées depuis lundi pourraient durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Et comme à chaque rebondissement de cette affaire, toujours beaucoup de questions. On essaye de vous apporter quelques réponses avec nos invités. Brice Vidal, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes bonjour. Journaliste, coordinateur de la rédaction de 100% Radio. Vous suivez cette enquête sur le terrain de près depuis le début. Jean-Alphonse Richard également avec nous, journaliste présentateur de l'heure du crime sur RTL. Et le général François Daoust, bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Ancien directeur du pôle judiciaire de la gendarmerie, professeur aujourd'hui de sciences criminelles à l'université de Cergy-Pontoise. Ancien directeur aussi de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Et ça a son importance, évidemment, dans ces fouilles qui sont menées. Parce que ce sont ces moyens de l'IRCGN qui sont notamment mobilisés. Comment s'y prend-on et qu'est-ce qu'on cherche précisément depuis lundi ?
Alors déjà, par rapport au reportage où on dit, on voit bien que Cédric Jubilard donne des éléments et on se dit, mais pourquoi revenir ou autre ? On ne peut pas laisser passer une possibilité d'avoir toujours le corps, d'avoir le corps à cet endroit-là, même s'il dit peut-être là, peut-être pas là, peut-être ailleurs, etc. Donc on est obligé de repasser et de le faire à fond. Parce que si jamais bien on passait à côté de l'essentiel, eh bien, ce serait une faute professionnelle. Donc, tous les moyens sont mis. Parmi ceux-là, il y a ceux de l'IRCGN, donc avec le géoradar, avec les détecteurs de métaux, avec un anthropologue pour voir si des ossements étaient trouvés, immédiatement faire le distinguo entre des ossements d'animaux et des ossements humains, un archéologue qui travaille aussi avec l'IRCGN de façon à voir quel type de fouille et comment le faire, et y compris la troisième dimension qui est avec une caméra thermique, voir les différences de température qui peuvent ressortir du sol ou d'autres endroits par rapport aux ruines. Pourquoi ? Parce que si on bouge de la terre, si on bouge un sol, un mur ou autre, eh bien le fait d'isoler cette partie de l'homogénéité qu'il y avait, eh bien, donne des températures différentes.
Même un an après ?
Même un an après. Il faut plusieurs années pour avoir de nouveau un sol qui se régénère et qui s'homogénéise. Donc, on voit tout ce que ça peut apporter et toute la nécessité qu'il y a.
Brice Vidal, on a besoin de vous. Vous êtes nos yeux, vous êtes allé sur place, vous connaissez cette zone. Mmh. À quoi ça ressemble, l'ampleur, la taille et la proximité du domicile des Jubilards aussi ?
Alors déjà, c'est plusieurs hectares, hein, le secteur qui est fouillé. Nous, on a réussi cette semaine, sur 100%, à identifier trois zones de fouilles qui ont été nettoyées, parce qu'au préalable, donc, on nettoie, on arrase. Ensuite, il va y avoir les Saint-Hubert qui vont passer. Et puis, dans un dernier temps, la fouille opérationnelle spécialisée, les militaires de Montauban, qui vont effectivement passer les détecteurs, les géoradars. Et donc, trois zones de fouilles sur en fait, un secteur qui est assez vallonné, très boisé, et qui est en contrebas de Cagnac-les-Mines, qui est une sorte d'oppidum, hein, Cagnac-les-Mines, petit promontoire, et puis ça descend, il y a plusieurs vallons, il y a notamment un qui est dans le collimateur des enquêteurs actuellement, et c'est le long du chemin de Drignac, secteur qui aurait pu être emprunté par le tueur. Si,
vous avez reconstitué ce trajet ?
Se trouver là, il aurait pu passer en voiture pour transporter le corps, ça c'est une certitude.
Il y a plusieurs maisons ?
Il y a 5-6 habitations, oui. La ferme plus 5 maisons.
Brice, il n'est pas venu dans une habitation la nuit pour enterrer un corps. Dans ces habitations, il y a des chiens, j'imagine, voilà. Des fermes. Et donc, c'est autour.
C'est autour. On peut y passer par derrière sans passer devant les habitations en contournant. Et effectivement, ce n'est pas les secteurs de la ferme à proximité qui sont fouillés actuellement.
Je me reprends quand je dis il n'est pas venu. Il ne serait pas venu s'il s'agit bien de Cédric Jubilard.
C'est oui, conditionnel.
Le tueur, moi je dis le tueur, hein, on s'arrête là. Et vous questionnez sur la distance du domicile, 3 minutes.
Ouais, c'est ça. Donc,
en voiture.
Vraiment à proximité. Jean-Alphonse, évidemment, le général le disait, on ne peut pas ne pas aller fouiller s'il y a un doute. Sauf qu'on s'interroge un peu sur ce que fait et sur j'ai envie de dire, sur comment Cédric Jubilard joue ou pas avec les enquêteurs. Il y a ses confessions à un codétenu où il parle de cette ferme, il y a Séverine, il parle de cette ferme, et puis cette semaine, nos confrères de La Dépêche dévoilent ses lettres qu'il a écrites à Séverine, des lettres qui datent de début janvier. Voilà ce qu'il dit, notamment sur cette histoire de la ferme. « J'ai raconté n'importe quoi à n'importe qui », écrit-il. « Maintenant, plus de blablotage, c'est son terme, avec personne, je te le promets. » Qu'est-ce qu'il fait ?
Bah, écoutez, là, on est dans les mystères et dans la tête de Cédric Jubilard, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très intéressant dans cette histoire. C'est que finalement, c'est lui qui mène le bal. Il est l'acteur principal. On n'a aucun référent, aucun témoin à qui on puisse s'adresser aujourd'hui pour obtenir des informations sur cette histoire. Et donc, il demeure le témoin numéro un et le suspect numéro un. Et c'est lui qui finalement décide du déroulement, presque, j'ai envie de dire, des opérations inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas. Pour l'instant, il n'est que suspect numéro un, mais effectivement, il a cité cette ferme à au moins deux reprises. Il a cité auprès de sa nouvelle compagne et puis il a cité auprès du co-détenu avec des détails, ce qui est un peu curieux parce que pour quelqu'un qui se dit totalement innocent, aller désigner l'endroit où il aurait placé le corps, c'est pour le moins curieux, on peut effectivement en douter. Et il faut savoir que depuis le début, Cédric Jubilard, il joue avec les mots. C'est une grande gueule, Cédric Jubilard. Donc il a envie d'être dans la provocation en permanence. Et on est obligé de le suivre. C'est ça la tragédie de cette histoire. C'est qu'effectivement, dans certains dossiers criminels, je prends ça Fourniret par exemple, qui lui est hautement coupable, etc., et qui est depuis décédé. Mais c'est lui qui menait le bal aussi des investigations, des fouilles, etc. Il l'a mené jusqu'au bout, jusqu'à sa mort. Donc là, effectivement, il y a un jeu qui est un petit peu troublant, mais on est obligé de suivre ce jeu. Pourquoi ? Parce que l'enquête est vide. On n'a pas le choix. On n'a pas d'indices et pas de preuves. Il faut se raccrocher à ce personnage. Et si demain il dit j'ai laissé à tel endroit, je sais pas, un
téléphone, il faudra y aller aussi,
etc. Il faudra y aller.
Ouais. Question Brice Vidal, qu'est-ce que cherchent les enquêteurs ? Peut-être pas seulement le corps de Delphine, qu'est-ce qu'ils peuvent chercher ? Qu'est-ce qui manque dans ce dossier ?
Alors, c'est effectivement, y a une question qui peut se poser là, à ce stade, c'est est-ce que les enquêteurs, ils cherchent le corps de Delphine, bien évidemment, mais est-ce qu'ils ne cherchent pas aussi le téléphone de Delphine ? Parce que c'est un élément de procédure qui est très important dans ce dossier. Il est introuvable à ce stade. Il peut contenir aussi la clé du mystère de Cagnac-les-Mines. Donc, aujourd'hui...
Ça pourrait être quoi, la clé ?
Avoir son téléphone, c'est toutes les données qu'il y a à l'intérieur, qui possiblement ne sont à ce jour pas exploitables. C'est aussi un téléphone qui a pu être balancé, pardonnez l'expression, dans la fosse avec la victime. Et voilà, aujourd'hui, la fouille opérationnelle spécialisée, c'est-à-dire les militaires qui sont en appui de la gendarmerie aujourd'hui, ils cherchent des éléments techniques qui contiennent du métal. Ils ont des détecteurs de métaux de grande profondeur ou de faible profondeur, mais des détecteurs de métaux qu'ils règlent en fonction de la taille de l'objet. Donc aujourd'hui, les Saint-Hubert, ils cherchent les restes humains. Et les militaires, ils cherchent possiblement un téléphone.
Question encore, Brice. Et si on n'a pas le téléphone, et question à tout le monde, si on n'a pas le téléphone de Delphine Jubilard, est-ce qu'on peut avoir par un opérateur, je crois que son opérateur, c'était Orange, est-ce qu'on peut avoir par un opérateur ou par un autre système, le technicien, les messages qui sont passés dans ce téléphone? Si elle avait envoyé un message à une copine en disant « il m'agresse, on m'agresse », on peut retrouver ça auprès
de... Il y a des choses dans la procédure qui y sont déjà, en tout cas si on en croit les informations de presse qui sont sorties, puisqu'on sait qu'elle a envoyé une photo à son amant, ça fait partie des... On pense savoir... qu'elle a envoyé une photo à son amant la veille au soir.
Tout en haut, Brice, le cloud, ce qu'on appelle le cloud qui retient les informations, est-ce qu'on peut les chercher là-dedans ?
Ça, il faut demander aux enquêteurs.
Général.
Il y a des possibilités, mais après, il y a deux sortes. Il y a celles qui appartiennent à l'opérateur en France, et là, il est soumis à la procédure pénale, donc s'il est requis, il donnera tout ce qu'il a. Et puis, il y a ces informations et ces données qui transitent par le fabricant du téléphone. C'est-à-dire que si c'est un Samsung, c'est un Samsung, si c'est Apple, etc., etc. Ou si c'est Android dépendant de Google, par exemple. Et alors là, eh bien, les réquisitions internationales sont beaucoup plus compliquées pour y déférer, y répondre et offrir les données aux enquêteurs.
Les Américains refusent systématiquement de donner ce genre de données. Le FBI s'est cassé les dents auprès de Google, etc. Le FBI, c'est pas rien aux États-Unis. La CIA réussit parfois à avoir quelques données, mais c'est très hermétique et très opaque. Donc de ce côté-là, ça va être compliqué.
Général, un mot encore sur ces fouilles avant d'avancer sur les éléments de la semaine. Combien de temps ça peut durer ? On a vu que la zone était grande. Est-ce que c'est-à-dire qu'on va jusqu'au bout, on fouille tout centimètre par centimètre, ou à un moment on se dit non, là c'est une fausse piste?
Non, la zone telle qu'elle a été définie, et justement pour fermer les portes et éviter d'avoir une brèche dans le dispositif, tout sera passé. Et c'est pour ça que les moyens sont aussi importants, entre les chiens chercheurs de cadavres que sont les Saint-Hubert, entre la recherche du téléphone, si jamais il était aussi dans le coin, encore qu'il y a de mémoire le Var qui est un peu plus bas, et s'il est balancé dans la rivière, là ça va être un peu plus compliqué. Mais les moyens sont mis justement pour fermer cette porte définitivement, ou au contraire l'ouvrir si jamais quelque chose était découvert. Donc là, ça va durer un certain temps. Je suis désolé, je ne peux pas vous en donner plus.
L'espoir est de retrouver évidemment surtout des indices, évidemment. Je disais les autres éléments de la semaine parce que Maître Batik, l'avocat de l'oncle et de la tante de Delphine Jubillard, s'est exprimé chez nos confrères de France Télévisions cette semaine, c'était les matins, et j'aimerais qu'on écoute ce qu'il dit de Cédric Jubillard.
Cédric Jubillard avait une relation parfaitement toxique avec Delphine. On sait qu'il était violent, qu'il était jaloux, qu'il était violent à l'égard de Delphine, à l'égard des enfants. Il a pu être violent physiquement avec les enfants, il a été violent à minima verbalement avec Delphine.
Jean-Alphonse, on savait que les relations étaient compliquées. La violence envers les enfants, c'est un élément.
C'est l'avocat qui dit, je ne vais pas rentrer là-dedans, je pense que les gendarmes ont beaucoup travaillé sur le sujet. Le fait est, c'est qu'il y a une violence en tout au moins rentrer chez Cédric Jubillard, qui existe. Il y a eu des menaces proférées, même si ça peut être des mots en l'air. Lui, il dira qu'il a parlé sous l'effet de la colère et de l'exaspération. Mais effectivement, on sent très bien que dans ce climat familial, il y a quelque chose qui clochait, il y a quelque chose de très tendu, et il y a surtout une montée en puissance de cette espèce de violence retenue, jusque peut-être à l'explosion, si effectivement c'est lui qui aurait fait disparaître Delphine. Donc il a, pendant des semaines, essayé de savoir ce que faisait sa compagne. Il a dit que c'était faux au début, qu'effectivement il se moquait totalement de ce qu'elle pouvait faire et qu'elle n'avait sans doute pas d'amant. Et puis après on s'est aperçu qu'il était dans une espèce de filature permanente. Donc là, ça c'est de la violence, évidemment, rentrée.
Et on n'est pas dans un huis clos. C'est pas le père, la mère et les deux fils. Il y a quand même beaucoup d'amis IES, en tout cas pour Delphine, peut-être un peu moins pour lui, il y en a quelques, mais des amis IES de Delphine, cousins, cousines, qui poussent pour que les enquêteurs trouvent des choses.
Oui.
Et qui ont témoigné aussi, qui ont dit certaines choses, hein, que Cédric leur avait rapportées, etc. Ce sont des témoignages qui, mis bout à bout, pèsent dans le dossier.
Oui, bien qu'elle reste quand même un peu modérée, hein, elle ne pointe pas non plus du doigt Jubillard comme les amis de Delphine comme étant l'auteur. Mais effectivement, elles sont là, elles sont présentes, elles sont intervenues sur notre antenne cette semaine, donc elles suivent ça de près avec l'angoisse évidemment et l'attente qu'on puisse retrouver quelque chose. Pour revenir à ce que disent Jean-Alphonse, de toute façon, Jubillard, il est complètement déroutant, il est capable de dire... blanc et noir à 15 minutes d'intervalle, hein, ça on l'a vu à plusieurs reprises. Et puis après, sur ce que dit l'avocat à l'instant dans votre séquence, c'est des indices de comportement. C'est pas des preuves.
Exactement. Et les enfants, l'enfant en tout cas le plus âgé, qui a 7 ans, ne s'est pas plaint d'avoir un mauvais traitement de la part de son père. Donc il faut faire attention aussi d'aller un peu trop vite en besogne sur le sujet.
Général, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces fouilles sur le terrain, on les a évoquées. Mmh. Est-ce que pendant ce temps-là, parallèlement, les enquêteurs continuent à sonder le passé de Cédric Jubillard, à essayer de comprendre s'il les manipule ou pas, à essayer de remonter son parcours intégral et d'aller chercher des petites choses.
Oui, ça fait partie de l'enquête et de l'enquête de personnalité. Donc, il y a à la fois les psychiatres d'un côté, mais aussi les témoignages qui peuvent remonter jusqu'à son maître d'école ou sa maîtresse d'école, etc. Les professeurs qu'il a pu avoir, les amis tout au long de sa scolarité, tout le long de son parcours. Et là, c'est recueillir les témoignages de façon à mieux affiner sa personnalité, violente, pas violente, renfermée, ouverte, manipulateur, pas manipulateur. Et derrière, il y a toutes les expertises psychiatriques qui vont affiner encore et mettre en perspective ce qui va être collecté et recueilli par les enquêteurs.
Qui vont affiner rapidement. Ou qui vont complexifier. Oui. Parce que pour Cédric Jubillard, ça a l'air de plus en plus compliqué de savoir ce qu'il a dans la tête. Oui. Il y a juste une petite phrase comme ça qu'avait dit le procureur de Toulouse quand il a été mis en examen. Il a dit, moi, ce type-là, Je n'y comprends rien. Je vous souhaite bon courage. Texto, le procureur de Toulouse. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Cédric Jubilard? C'est compliqué.
Conclusion idéale pour cette partie. Et vous serez les bienvenus, évidemment, pour continuer à suivre cette affaire avec nous. Merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau. Et d'affaire suivante, ce dimanche, comment se préparer à une telle épreuve? Dans 8 jours, commencera le procès de Nordal Lelandais, le tueur de la petite Maëlys. Ses parents vont se retrouver face à lui, face au tueur de leur petite fille, la petite Maëlys. Elle n'avait que 8 ans quand Nordal Lelandais a choisi de la tuer. Depuis, les parents de Maëlys survivent comme ils peuvent. Alors comment appréhendent-ils ce procès? Comment se sont-ils préparés? Nous serons dans un instant avec leur avocat, celui qui va les accompagner tout au long de cette épreuve. Un procès qui s'annonce particulièrement difficile. Marine Chéret.
C'est derrière ces murs du palais de justice de Grenoble que se tiendra à partir du 31 janvier le procès de Nordal Lelandais, jugé notamment pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de la petite Maëlys. 3 semaines d'audience très attendues, sous haute tension, durant lesquelles les proches de la fillette seront replongés dans la nuit du 26 au 27 août 2017. La famille va notamment être à nouveau confrontée à ces photos. Celle de la reconstitution du meurtre de Maëlys organisée en septembre 2018. Sur ces clichés, Nordal Lelandais, barbu et habillé en noir, un mannequin représente Maëlys vêtue d'une robe blanche. En présence des parents de la victime, le meurtrier présumé donne sa version. La fillette qui monte volontairement dans sa voiture, ses larmes une fois à bord, et les coups portés par Nordal Lelandais, comme le montre cette photo. Un récit glaçant, durant lequel la mère de la petite fille croise le regard de Nordal Lelandais. Elle se dit prête à l'affronter à nouveau au procès.
Moi, j'ai déjà vu, donc il ne me fait pas peur. Je vais bien l'affronter, je vais bien le regarder. Il n'y a pas de souci.
L'ancien militaire évoque une mort accidentelle, assure ne pas avoir violé sa victime. Les parents de cette dernière n'y croient pas. Que s'est-il vraiment passé ce soir-là? Comment Maëlys est-elle morte? Ce geste était-il prémédité? Des zones d'ombre demeurent, mais la famille de la fillette attend peu de Nordal Lelandais. Même s'il avouait, qui pourrait encore le croire, résume la maman de Maëlys.
Une épreuve évidemment qu'on peine à imaginer, l'épreuve que vont vivre les parents de Maëlys. Maître Fabien Rajon, bonjour, merci d'être avec
nous. Bonjour.
Vous êtes l'avocat des parents de Maëlys, vous allez nous parler d'eux. Et de comment vous vous préparez à ce moment difficile. À vos côtés, Pauline Revenat, bonjour, grand reporter BFM TV. Et vous avez collaboré avec Nicolas Dabarrère, notamment un documentaire qu'on découvrira, un long format qu'on découvrira lundi soir à 21h sur BFM TV, Affaire Maëlys, l'itinéraire d'un prédateur. Maître, évidemment, on a envie de commencer par prendre des nouvelles des parents de Maëlys. Dans quel état d'esprit sont-ils à 8 jours de ce procès si important pour eux, mais on l'imagine si douloureux également?
Je pense que l'impatience commence à pointer. Parce qu'on est effectivement à 8 jours de ces assises, à 8 jours d'un rendez-vous crucial pour eux. Et effectivement, l'impatience commence à pointer. L'instruction a été assez longue, 4 ans d'instruction. Ils attendent maintenant ce rendez-vous. Je dirais que l'état d'esprit, c'est peut-être en premier lieu la lucidité quant au fait que les assises, en tant que telles, c'est une épreuve. Ça va être trois semaines d'épreuves terribles pour eux. Et puis ensuite, je vous dirais qu'il y a aussi une volonté d'être combatif et d'être au rendez-vous de ce rendez-vous très, très important.
Vous, maître, vous avez déjà vécu des assises, pas eux, ils ne savent pas ce que c'est. Est-ce que vous les avez préparés psychologiquement, je vais y arriver, à ce qu'ils vont devoir entendre à des moments durs de cette audience? Est-ce que vous les avez préparés?
Oui, j'en ai parlé un petit peu avec toute la famille. Quant au fait que les assises, et c'est le principe de la procédure pénale française, les assises, c'est d'abord et avant tout le procès de l'accusé. Qu'on le veuille ou non, c'est le principe en droit pénal français. En d'autres termes, ce procès d'assises, il va opposer le ministère public, d'une part, à Nordal Lelandais, d'autre part. Mmh. Et effectivement, on va longuement évoquer la personnalité de Nordal Lelandais. Notre volonté, c'est aussi de faire en sorte que Maëlys, son souvenir, soit aussi au cœur des débats. Mais c'est un point, effectivement, un point sur lequel j'insiste régulièrement auprès de cette famille, c'est que pendant 3 semaines, effectivement, on va beaucoup parler de Nordal Lelandais et que c'est tout simplement prévu par les textes.
Elle est montée dans la voiture, je l'ai emmenée. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait? J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai rien fait, j'en dis plus. Les parents eux entendent tout ça, ils le savent.
Oui, effectivement, ils vont entendre tout cela, ils vont entendre la parole de l'accusé, alors ils vont aussi entendre ce que diront les témoins, les experts, on aura des experts, je pense notamment aux experts psychiatriques, psychologiques qui vont intervenir, on aura sûrement des enquêteurs qui ont joué un rôle important dans le cadre de ces investigations, qui vont venir siéger le moment venu, sûrement durant ces assises, donc il y aura d'autres paroles que la parole de Nordal Hollandais. Mais effectivement, dans le cadre d'un procès d'assises, eh bien on juge un accusé.
Pauline, est-ce qu'on a une idée de l'état d'esprit dans lequel Nordal Hollandais va se présenter devant les assises ?
Alors, c'est pas évident de se mettre dans la tête de Nordal Hollandais. On a des informations assez factuelles. Il est dans le quartier d'isolement de Saint-Quentin-Fallavier depuis septembre 2017. Il a des visites régulières de sa mère, de son frère, de sa demi-sœur et d'une ancienne compagne qu'on a vue dans pas mal de médias qui raconte qu'elle a passé plus de 200 heures au parloir avec lui et qu'elle lui a fait passer du rhum, de la cocaïne et surtout des téléphones portables. En tout cas, factuellement, c'est vérifié sur les téléphones portables puisqu'il y a un téléphone qui a été saisi dans sa cellule en décembre dernier. Et il y a une enquête pour recel qui est ouverte. Donc ce qui est intéressant, c'est que Nordal Hollandais, bien sûr, il se prépare au procès avec son avocat, Maître Jakubowicz. On ne sait pas, honnêtement, par honnêteté, je ne peux pas vous dire dans quel état il va se présenter. Tout est possible, tout est ouvert. Le seul indicateur qu'on a, c'est le procès, et je me tourne vers vous, du meurtre d'Arthur Noyer, où il s'est présenté, il a dit des choses, mais il n'est pas allé au bout de sa vérité, ni au bout de la vérité, malgré des perches qui avaient été tendues par sa mère, des proches, qui ont essayé de le faire basculer. Il n'y est pas allé, donc je ne peux pas vous dire dans quel état il va se présenter, je ne peux pas vous dire jusqu'où il ira.
Ce que vous dites est intéressant, et Maître, je vous laisse réagir évidemment juste après, c'est qu'il a un rapport Nordal Hollandais à la vérité qui est compliqué, et qui du coup peut être compliqué pour les parents de Maëlys.
Et dans une cour d'assises, alors au cours de l'instruction, on l'a vu, en fait, il n'avoue que lorsqu'il est acculé par des preuves scientifiques. Souvenez-vous, l'ADN de Maëlys sur le tableau de bord, la micro-goutte de sang dans le coffre, ce n'est que là, le 14 février 2018, qu'il va avouer, je l'ai tué involontairement. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que Nordal Hollandais, il a toujours tendance aussi, quand on lit le dossier, à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, sur autrui. C'est jamais vraiment de sa faute. Le soir de la mort d'Arthur Noyer, il appelle une compagne et il essaye de la voir et Arthur Noyer va trouver la mort. Le soir du mariage et de la disparition de Maëlys, il essaye de contacter une compagne à plusieurs reprises et il y a des écoutes ensuite dans lesquelles on entend, il dit « si tu m'avais répondu ce soir-là, ça aurait tout changé ». Donc en fait, lui, il a tendance, en tout cas au cours de l'instruction, à faire un espèce de transfert de culpabilité, c'est ça qui va être intéressant aussi aux assises. Est-ce qu'il va continuer sur cette ligne-là ou est-ce que, devant les parents de Maëlys, il ne va pas pouvoir échapper à la vérité ?
Maître, vous en avez accompagné des parents, vous avez eu de très gros dossiers, des parents qui vont être confrontés à un homme qui va peut-être envoyer la faute, qui va peut-être enjoliver, qui va peut-être mentir, qui va... Quand on sait qu'on a les faits, quand on sait qu'on a perdu sa petite fille, quelle épreuve ?
Ça va être terrible, mais je crois encore une fois qu'ils sont prêts. J'échange beaucoup avec la maman de Maëlys, qui me semble prête et déterminée. Je pense que la famille de Maëlys a beaucoup de recul sur la parole de Nordal Hollandais. Pour de bonnes raisons, pour des raisons objectives, c'est que nous suivons ce dossier depuis septembre 2017 et la parole de Nordal Hollandais, on l'a vu évoluer. Donc cette parole, on la prend avec beaucoup de recul. Non, nous, on compte plutôt sur la solidité du dossier d'instruction. Parce que objectivement, dans ce dossier-là, les trois juges d'instruction qui ont travaillé d'arrache-pied dans ce dossier depuis septembre 2017 ont fait un travail exceptionnel, en lien d'ailleurs avec les enquêteurs de l'IRCGN, de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, à qui en réalité on doit la vérité, très clairement. Oui. Sans eux, ce dossier, c'est un cold case.
Et on n'aurait pas élucidé aussi la mort d'Arthur Noyer.
Oui, aussi. Et donc, on prend le pari de se fonder sur le travail sérieux, approfondi des juges d'instruction. Un travail d'ailleurs qui a été mené à charge et à décharge, sans parti pris particulier. Et également, on veut également se fonder sur ce travail qui a été très méticuleux des enquêteurs de la gendarmerie.
Dans l'humain, Maître, le couple de Harojo, les parents de Maëlys, le couple a explosé. Comme ça s'est produit déjà dans d'autres dossiers qu'on a connus, l'affaire Van Geleven avec les parents de Muriel Sanchez qui n'est pas supporté, puis beaucoup d'autres affaires. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vraiment la mort de Maëlys qui a provoqué, qui a pulvérisé le couple. On est dans le domaine. Pardon, c'est une question très intime, mais
j'entends votre question au plan humain, elle a beaucoup d'intérêt, mais malgré tout, on est dans le domaine de l'intime. Ouais. On évoquera peut-être cette question aux assises, mais je ne vais pas vous donner de détails à ce sujet.
Ça a à voir ou pas ?
Je ne peux pas vous le dire directement ou même indirectement. On verra ça le moment venu aux assises. Peut-être que cette question sera abordée dans le cadre des assises. En tout cas, je ne me vois pas révéler
c'est
cela.
Peut-être qu'ils diront, c'est peut-être eux qui diront ce que M. de Harojeu disait à nos confrères du Parisien, je crois. D'RTL, pardon. Serge Pueyo d'RTL. Mmh. J'ai plus de travail, j'ai plus de femme, j'ai plus de travail et j'ai tout perdu.
Ah mais ça a eu effectivement des conséquences terribles. La vraie question, c'est comment on survit plutôt après des faits de ce type. Comment on vit, comment on survit après une période qui pour moi est une période qui a été une période de quasi-torture. Cette période qui va du moment de la disparition de Maëlys au moment où Norda Lelandais va enfin consentir à nous dire où est le corps. Cette période de 6 mois au cours de laquelle des recherches sont menées partout aux alentours de la commune de Pont-de-Beauvoisin, dans des ravins, dans des rivières, à travers la Chartreuse. Tout a été vraiment passé au peigne fin. En parallèle, nous, très vite, on avait des éléments qui, objectivement, accusaient Norda Lelandais. On n'était pas dans une sorte de délire. Très vite, on va dire, dès les premiers temps du mois de septembre, on avait des éléments objectifs parce qu'on était constitué partie civile. Il n'était pas très compliqué d'avoir accès aux éléments du dossier qui nous permettaient de cerner la responsabilité de Norda Lelandais. Donc, logiquement, on va se tourner vers lui, lequel est mis en examen, lequel est placé en détention provisoire. Et cet individu-là va refuser de nous dire où est la petite Maëlys. Donc ça, c'est, je pense, ce qui a évidemment ajouté à la gravité du préjudice subi et au caractère destructeur de cette affaire pour les proches de Maëlys.
Une période de torture, évidemment, on imagine ce qu'ils vont vivre ces prochaines semaines. Pauline, d'un mot, ce qui va aussi se jouer dans ce procès, et ce sera aussi pour eux une épreuve, c'est de revoir l'intégralité du parcours de Norda Lelandais. C'est aussi ce qu'on découvrira dans ce documentaire lundi soir.
Alors nous, on a pris le parti de s'arrêter sur l'année 2017, qui est une année criminogène qui va crescendo. On peut le rappeler, donc en mars 2017, il y a une agression sexuelle présumée sur une cousine de Norda Lelandais lors des funérailles de son père. Alors sachez que cette affaire est disjointe. Elle ne va pas être jugée cette fois-ci le 31 janvier, mais l'instruction est toujours ouverte. Ensuite, il y a le meurtre d'Arthur Noyé, rappelons-le, Norda Lelandais a été condamné à 20 ans de réclusion et il n'a pas fait appel, c'est important. Ensuite, il y a les agressions sexuelles présumées sur deux petites cousines, il a reconnu les faits en juillet et en août 2017, une semaine avant la disparition de Maëlys, et enfin le meurtre de Maëlys, 8 ans, qui va être jugé à partir du 31 janvier. Nous, ce à quoi on a voulu s'intéresser, c'est ce parcours pédocriminel et meurtrier qui va crescendo comme s'il n'avait jamais de limite, comme s'il n'avait pas de garde-fou, jusqu'à cette nuit tragique du mariage où Maëlys va disparaître.
L'itinéraire d'un prédateur, ce sera à 20h50 sur BFM TV lundi soir dans Ligne Rouge. Merci beaucoup Maître Rajon d'être venu sur ce plateau. On vous souhaite bon courage pour ce procès qui débutera donc le 31. Merci Pauline d'être venue sur le plateau. D'affaires suivantes, avec Dominique, on vous souhaite un bon dimanche. On vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine.